Fréquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
Moi, président. Bonjour à tous et toutes. L'élection présidentielle possède une dramaturgie incomparable. Tous les 7 ans jadis, puis tous les 5 ans, le pays est transformé en une circonscription unique pour un suffrage universel direct servant à désigner l'homme ou la femme chargée de représenter le peuple et même, pour certains, de sauver le pays. L'élection présidentielle est un moment attendu de haute intensité électorale pour le peuple. Et pour les candidats, elle est une lutte à mort. Chacun doit être en ordre de bataille, désigné par son camp, soutenu par son parti et aidé par des milliers de militants anonymes. Chaque candidat doit non seulement écraser les concurrences externes et internes, mais il doit aussi réussir ses passages télé et trouver les formules qui frappent. La campagne revêt une importance capitale pour accéder à la magistrature suprême. Peut-être même que la campagne fait l'élection. La campagne présidentielle dans laquelle nous sommes a déjà eu son lot de rebondissements inattendus. L'élimination aux primaires des têtes d'affiche, Cécile Duflot, Nicolas Sarkozy ou Manuel Valls, le retrait de François Hollande, président sortant, l'émergence d'un jeune ministre démissionnaire inconnu, Emmanuel Macron, un débat télévisé à 11 candidats, et bien sûr le yo-yo des sondages et de leurs commentateurs fidèles qui donnent le tournis. Mais si cette élection nous paraît agitée et inattendue, c'est aussi parce que nous avons tendance à oublier les précédentes. Or, pour leurs contemporains, elles étaient tout aussi denses, voyant l'engloutissement de certains favoris et l'irrésistible ascension de certains autres. Tout cela milite pour une plongée dans le passé politique de la Ve République et ses 9 élections de président. Revivre la saga des élections présidentielles, c'est comprendre l'évolution de l'offre politique, la naissance et la mort de certains partis ou l'installation durable de plusieurs figures politiques. Car en France, la vie politique est longue. Revivre la saga des élections présidentielles, c'est voir qu'elles sont toutes ressemblantes et en même temps irréductibles. Bonjour Gérard Courtois.
Bonjour.
Gérard Courtois, vous êtes journaliste politique au journal Le Monde depuis 1986, directeur éditorial et auteur de plusieurs ouvrages. Je vous reçois aujourd'hui pour évoquer votre dernier livre très documenté et très riche qui s'intitule « Parti de campagne, la saga des élections présidentielles » qui est paru chez Perrin en 2017. Je voudrais classiquement, Gérard Courtois, vous demander ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre.
Oh, je vais être honnête. Celui qui m'a donné l'idée, c'est mon éditeur, avec qui j'avais déjà travaillé sur un livre précédent sur les grandes crises politiques de la Ve République, et qui m'a dit il faudrait qu'on fasse une histoire des campagnes présidentielles, et voilà, et c'est vous qui devez la faire. Alors, ce sont des arguments auxquels on résiste difficilement. Quand on vous explique que vous êtes le seul qui est capable de faire un truc, on se dit que peut-être c'est vrai, alors que c'est pas vrai. Mais voilà, je me suis... Alors, je suis la politique depuis une trentaine d'années pour Le Monde, et du coup, il y a eu cette espèce de plaisir, de vrai plaisir, je dois dire, non seulement à replonger dans l'histoire, mais à replonger dans une histoire qui est, si je puis dire, la nôtre, la mienne, parce que on a beau être journaliste, on est citoyen, on est électeur, on a parcouru une bonne partie de ces campagnes présidentielles depuis 65, on les a vécues, on y a voté, et la superposition au fond de l'histoire française, de cette espèce de grand roman que sont les 9 campagnes, et la 10e en cours présidentielle depuis 65, et au fond de l'histoire personnelle, de la manière dont soi-même on les a vécues, était assez formidable.
Il y avait aussi peut-être, je parlais de la dramaturgie du politique, il y a quelque chose dans les élections présidentielles qui relève du théâtral ou du thriller, c'est-à-dire qu'il y a le suspense jusqu'au bout.
C'est vraiment, si on prend les 9 campagnes et la 10e en cours, c'est vraiment un roman formidable. Aujourd'hui, en tout cas pour celles à laquelle nous assistons aujourd'hui, je pense que n'importe quel réalisateur aurait été proposé un tel scénario à une société de production, il serait fait mettre à la porte immédiatement, tellement c'est invraisemblable. Mais ce qu'on oublie, c'est que toutes les campagnes depuis 65 ont été des machines à déjouer les pronostics. Toutes. 65, 2 mois avant, De Gaulle est réélu en majesté, ouais, au premier tour. Résultat des courses, il fait 45%, il est mis en ballottage. Et chaque campagne apporte son lot de surprises, parfois spectaculaires. Bon, Chaban-Delmas en 74 pense être élu dans un fauteuil. En 3 semaines, il s'effondre. Giscard d'Estaing en 81, quand je l'ai rencontré, j'ai vu pas mal de témoins et d'acteurs de toute cette saga. Giscard m'a confirmé que encore au mois de mars 1981, avec sa précision mathématique, il se voyait réélu avec 53% des voix. 6 semaines plus tard, il était battu. Raymond Barre en 88 surfait sur une sorte de petit matelas de sondage très flatteur, etc. Et résultat, il est devancé très largement par Jacques Chirac. Ouais. Et Balladur en 95. Évidemment, Jospin en 2002.
On en parlera.
On en parlera, mais qui est le j'allais dire presque la caricature de l'erreur de jugement générale, la sienne d'abord, mais celle des observateurs et de bien des Français qui se sont retrouvés au soir du 21 avril éberlués, effondrés et se disant mais j'aurais peut-être pas dû voter pour tel ou tel petit candidat, j'aurais peut-être dû faire un peu attention. Au fond, la seule élection qui est à peu près sans surprise, enfin, qui correspond à ce que pendant des mois il avait été annoncé, c'est celle de François Hollande. À partir du moment où il est désigné par la primaire socialiste en 2011, il est annoncé très largement en tête au second tour. Alors, au bout du compte, comme toujours, ça se termine à 51, 52, 53%, mais néanmoins, là, il n'y a pas eu de surprise, ou très peu. Il y a eu une petite bulle, Jean-Luc Mélenchon, déjà. Mais globalement, c'est la seule élection qui n'est pas véritablement déjouée les analyses ou les pronostics qui étaient faits 3 mois avant. Alors, la différence aujourd'hui, évidemment, c'est que c'est le coup de théâtre permanent. Ouais. C'est pas le coup d'État permanent, mais c'est le coup de théâtre permanent. Depuis 6 mois, pas un épisode n'est venu bousculer ce que on imaginait. Alors, vous l'avez rappelé, la primaire de la droite, la primaire de la gauche, le renoncement du président, les affaires judiciaires de François Fillon et également de Madame Le Pen, et jusqu'à ce moment Mélenchon dans lequel nous sommes plongés à 10 jours du scrutin, du premier tour, et chacun de ces épisodes conduit à une situation assez extravagante, en tout cas totalement inédite. On est à 10 jours, 8 jours du premier tour, 4 candidats semblent en capacité de se qualifier pour le second tour. Et ça, c'est vraiment très nouveau. Parce que dans toutes ces élections, il pouvait y avoir au sein de chaque camp des mouvements importants, on l'a dit, Chirac, Balladur, Chirac, Barre, etc. Mais les 2 qualifiés du second tour étaient globalement, en tout cas un mois avant, étaient connus. Pratiquement sans aucun doute possible. Là, 10 jours avant, les 2 candidats du second tour, bien malins, qui pourraient dire qui ils seront.
Oui, il y a une espèce de quartet qui peut d'ailleurs avoir à peu près le même score ou se neutraliser. Dans les nouveautés peut-être de cette élection, Gérard Courtois, c'est les primaires à droite, c'est une nouveauté. Les primaires n'étaient pas dans l'ADN ou dans la tradition de la droite. Et là, ils s'y sont soumis avec effectivement des surprises.
Bon, c'était pas dans la tradition de la gauche depuis longtemps non plus. Mais d'ailleurs, c'est très symptomatique. Je pense que à droite comme à gauche, les primaires ont été le moyen pour les partis, les grands partis, le PS d'un côté et les Républicains ou l'UMP autrefois à droite, de masquer leurs faiblesses, en réalité. C'est-à-dire que ce sont des partis qui, pour des raisons différentes, ne sont plus en capacité ou n'ont pas été en capacité de désigner, comme par un processus interne, comme ça se faisait auparavant, leur leader et leur candidat. Et donc, devant cet embarras, alors, on pense notamment à droite, à la lutte terrible qui a suivi la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012 entre François Fillon et Jean-François Copé, qui a laissé des traces très profondes. Et devant cette absence de leadership clair, au fond, au Parti Socialiste d'abord, puis à droite, on a utilisé cette procédure. Alors, en 2011, ça a très bien marché, pour des raisons qu'on peut analyser, mais voilà, le fait que la gauche était dans l'opposition depuis 10 ans la rendait, si je puis dire, plus désireuse de désigner un candidat capable de battre Nicolas Sarkozy, et ça a laissé l'impression, dans un camp comme dans l'autre, que c'était au fond une procédure assez efficace pour désigner un bon candidat. Et là, ce qui s'est passé, c'est que d'un côté comme de l'autre, a été désigné un candidat surprenant, dont moi je considère que ni l'un ni l'autre n'était majoritaire dans leur propre parti, qui se sont retrouvés investis d'une légitimité qui leur a laissé penser à l'un et à l'autre qu'au fond, ils avaient les mains libres pour développer leur programme et d'une certaine manière l'imposer, et ils se sont l'un et l'autre. Parce qu'on a évidemment un François Fillon qui a été
Premier ministre,
violemment percuté par ses affaires judiciaires. Ouais. Mais avant cela, on oublie que Fillon, au lendemain de sa désignation par la primaire, fin novembre, est à 30% d'intention de vote dans les sondages. Puis il y a un mois de décembre très compliqué pour lui, où sur son projet concernant la sécurité sociale, ça coince de tous côtés, il est interpellé, comment pouvez-vous imaginer une chose pareille ? Et par ailleurs, il a beaucoup de mal à recoller les morceaux de son propre camp. Il prend un bout de sarkozyste. Bon, il met de côté les partisans d'Alain Juppé. Donc, il y a pas mal de tensions à ce moment-là. Et dès le mois de janvier, il est retombé à 25% et repassé derrière Marine Le Pen. Et puis après, bon, les affaires judiciaires le plombent lourdement. Mais de la même manière, Benoît Hamon, pour le Parti Socialiste, candidat lui aussi, enfin, ou candidat surprise à l'arrivée, vainqueur surprise, se croit capable d'engager une démarche qui est une démarche, à mon sens, suicidaire. Pour quelqu'un qui était frondeur socialiste pendant le quinquennat de Hollande, et bon, quelle qu'ait été la force, l'efficacité ou la capacité d'empêchement des frondeurs, il n'empêche que, aussi bien au Parlement que dans le Parti Socialiste, il n'était pas majoritaire. Et il s'est conduit comme s'il l'était. Il s'est senti investi. Au fond, il s'est dit, voilà, maintenant je suis le candidat du Parti Socialiste et donc c'est ma ligne et ma démarche que j'applique. Résultat des courses, il a passé un mois dans des procédures compliquées, une démarche compliquée de rapprochement avec les écologistes, de simulacres de rapprochement avec Jean-Luc Mélenchon, et il a totalement oublié une chose dont il paye aujourd'hui cruellement le prix, c'est le béaba. Hein. Mitterrand a dit ça pendant 30 ans. On commence par rassembler son camp, son parti. Or, il a oublié de rassembler son parti. Le résultat des courses, c'est qu'il est aujourd'hui dans une situation extraordinairement périlleuse.
Gérard Courtois, sur la campagne, et la campagne d'Hamon est compliquée. Vous qui avez retravaillé ces 9 campagnes électorales, qu'est-ce que vous avez noté comme évolution ? Qu'est-ce qui est nouveau ? Par exemple, le poids des sondages qui monte en puissance, la question des communicants, qu'est-ce qu'on peut isoler transversalement ?
Alors, les sondages, bon, c'est un sujet de controverse et de polémique depuis 50 ans. Dès la première élection présidentielle, celle de 65, les sondeurs testent leur, pour la première fois sur une élection aussi personnalisée, où l'affrontement est assez facile à comprendre pour les électeurs et les sondés, il y a à ce moment-là une vingtaine de sondages pendant les 2 mois, grosso modo, de la campagne de 65. Sondages très bons, qui installent cet instrument comme un instrument quasi-divination, en tout cas de capacité à mesurer l'état de l'opinion, puisque, au fond, le résultat du premier tour, le 5 décembre, est à peu près exactement conforme à ce que disaient aussi bien la Sofres que l'IFOP, qui étaient les deux instituts à l'époque qui avaient pignon sur rue. On est aujourd'hui à plusieurs centaines de sondages sur les 3 ou 4 mois de la campagne, sondages publics. On ne parle pas des sondages qui sont
commandés
effectués,
par les candidats.
Commandés par les candidats. Donc on est dans une. Et avec une machinerie. Alors ça devient. C'est devenu effectivement au fil des ans un élément déterminant de la dramaturgie de chaque campagne. Et c'est vrai, quelles qu'aient été les critiques sur les sondages, quelles qu'aient été. Pas si nombreuses que ça pour les présidentielles. Les erreurs d'appréciation des sondeurs, il n'y en a pas eu tant que ça. Je parle des présidentielles. Sur des campagnes plus complexes, locales, européennes, etc., ça s'est produit beaucoup plus fréquemment. En revanche, sur les présidentielles, ce sont quand même des évaluations assez justes. Mais du coup, c'est vrai que les sondages sont devenus un des ingrédients. De la scénarisation, au fond, du spectacle présidentiel. La course de petits chevaux, comme on dit, est suivie par le citoyen électeur français, comme on suivrait, je ne sais pas quoi, un match de football ou une course d'automobile ou de chevaux, pour le coup, avec le même type de d'excitation ou et de méfiance en même temps. Et il faut bien toujours se dire, et là on est à quelques jours du premier tour, que ce qu'indiquent aujourd'hui les sondages, qui pour moi n'est pas du tout absurde, ça correspond très exactement la bulle Mélenchon, le flottement des campagnes de Marine Le Pen ou de d'Emmanuel Macron, par exemple, ou l'affaissement de Benoît Hamon, sont des choses que tous les observateurs, journalistes, etc., observent sur le terrain. La fièvre des meetings, la mobilisation des partisans ou la démobilisation des partisans, tout ça sont des choses qu'on voit sur le terrain et qui se traduisent assez fidèlement, me semble-t-il. Simplement, on est à 10 jours. Et l'expérience prouve que ce soit en 2002 à la présidentielle, que ce soit lors des primaires, aussi bien à droite qu'à gauche ces derniers mois, que les électeurs se décident de plus en plus tard, sont de plus en plus mobiles, de plus en plus stratèges ou tactiques, de plus en plus, rodés ou à l'exercice de l'analyse politique. On est sur un électorat qui est beaucoup plus éduqué, qui a un niveau d'études bien supérieur, une habitude de l'analyse politique bien supérieure, parce que les médias y contribuent, qu'on ne l'était il y a 50 ans. Alors, en revanche, il y a 50 ans, il y avait des permanences sociologiques, politiques, régionales, etc., qui assayaient les comportements électoraux de manière beaucoup plus stable. Mais tous ces éléments font qu'à 10 jours du scrutin, il faut faire très attention de ne pas prendre, comme on dit, la photographie d'aujourd'hui pour le résultat de demain.
On va écouter des propos de Jean-Marie Le Pen et de Lionel Jospin. On est avant le premier tour de 2002 dans un reportage réalisé par Jean-Paul Lepers pour la télé libre.
Nous sommes à 3 jours du premier tour. Jean-Marie Le Pen est accueilli dans les locaux de France Info. Le Pen est détendu et tranquillement, il va livrer à Patrick Boyer ses pronostics pour le scrutin de dimanche, prémonitoire. Je le rappelle, les Français vont voter 72 heures plus tard.
Comment voyez-vous les choses ?
Avec un certain optimisme. Mmh. Oui. J'ai toute une série d'indices qui me paraissent très prometteurs. Vous noterez quand même, et je pense que Moitié qui est là vous le confirmera, qu'il y a déjà plusieurs mois que je dis que ça se jouera entre 17 et 18 points. Et peut-être dans un mouchoir de poche, peut-être à la décimale près. Tous les indices, je dirais aussi bien ceux de la rue que ceux qui sont mesurés. Bon, ben, c'est vrai, j'ai battu les deux records d'audience sur TF1 et Antenne 2. Et peut-être plus démonstratif, je suis allé l'autre jour sur un grand site de chat. Le meilleur de mes concurrents a fait 40 000, moi j'ai fait 250 000 connexions. Non, j'ai même imaginé le titre de lundi, Jospin tué par sa majorité plurielle.
Le talent d'un homme politique, c'est d'être en phase avec les électeurs. La veille, je rencontrais Lionel Jospin à Rennes. Le candidat socialiste n'a rien senti venir, il a manqué de sens politique.
Imaginez juste une minute, monsieur le Premier ministre, monsieur le candidat, que vous soyez pas au second tour.
Oui.
Vous votez pour qui?
Non, j'ai une imagination normale, mais tempérée par la raison, quand même.
Ouais.
Donc,
c'est impossible.
Mais disons pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable. Hein? Bon, donc on peut passer à la question suivante, peut-être.
La valeur de l'homme, moi, président, nous sommes en compagnie de Gérard Courtois. Alors, Gérard Courtois, on en parlait en début d'émission, il peut y avoir, avant les campagnes ou pendant les campagnes, des formes d'aveuglement des candidats, pas simplement dans leur capacité de prédiction, mais dans le fait qu'ils vont faire campagne à reculons. Enfin, vous racontez que De Gaulle, en 65, n'y va pas. Il se dit, tout va bien se passer. Jospin se voit évidemment au second tour. Et il y a un problème.
Ah, il y a un très gros problème. Il y a un problème pour De Gaulle, c'est qu'il ne comprend pas qu'il ne suffit pas de dire « je suis candidat pour être élu », que la machine électorale qu'il a lui-même inventée, l'élection du président de la République au suffrage universel, change singulièrement les choses, c'est pas un plébiscite. Et pour ce qui est de Jospin, il y a beaucoup de facteurs qui ont joué. Mais retenons, un, la dispersion de la gauche, qui est quand même éparpillée sur, si je ne me souviens bien, 8 candidats.
Oui.
Trois trotskistes, un écologiste, un communiste, Jean-Pierre Chevènement, Christiane Taubira et Jospin.
Gauche,
et Jospin, 8 candidats, ce qui est quand même de la folie. Et la responsabilité de Jospin et du Parti Socialiste à ce moment-là est grande, parce que, je le raconte dans ce livre, Lionel Jospin ne refuse, par principe moral, par principe politique, par principe personnel, de demander à Christiane Taubira de renoncer à sa candidature. Alors que autour de lui, beaucoup lui disent « Attention, un point, deux points, ça peut compter. » Et Jospin ne fait pas la démarche. Elle réunit 2% des voix, c'est largement, ça aurait été largement suffisant pour lui permettre d'être devant Jean-Marie Le Pen. Mais il y a mieux, c'est que des esprits imaginatifs, intelligents et subtils au Parti Socialiste voient à un moment, au mois de mars 2002, voient Arlette Laguiller, qui en était à sa cinquième candidature, je crois, depuis 1974, monter dans les sondages. Il y a un phénomène Arlette Laguiller, un peu comme, on pourrait, enfin, proportion plus modeste, mais un peu comparable à celui dont bénéficie aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Et alors, ça commence à inquiéter quand même au Parti Socialiste. Elle se retrouve à 10 ou 11% d'intention de vote. Et donc, il y a des esprits malins qui se disent, bon, on va permettre à Besancenot, qui était parfaitement inconnu du nouveau parti anticapitaliste, l'ancienne Ligue communiste, d'obtenir ses signatures qu'il n'avait pas. Et puis ça va casser un peu la dynamique de Laguiller. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que Laguiller se retrouve à 5%, un peu plus. Mais Besancenot, contre toute attente, grâce à 15 jours de campagne officielle à la télévision, crève l'écran et réussit à obtenir pratiquement 5%. Et donc si on fait les 5%, ou quasi, de Besancenot et les 2% de Taubira, il y a une vraie responsabilité du PS et du candidat dans cet échec. Puis, je pense qu'il y avait, une autre erreur stratégique qui est intéressante à observer pour aujourd'hui dans la campagne de 2002, c'est que Jospin est tellement persuadé d'être au second tour qu'il ne fait pas véritablement une campagne de premier tour.
C'est ce que j'allais vous dire. Voilà, il se projette dès le second tour, y compris dans les slogans.
Absolument. Présider autrement. Et non seulement il se projette au second tour, mais il se projette dans un duel au couteau et très vindicatif avec Chirac, avec qui il a cohabité 5 ans, dont il a mal supporté les manœuvres, les chausse-trappes, etc. Et donc, il veut, au fond, enfin, c'est assez simple, il n'appelait, à la fin de la cohabitation, en 2001-2002, il appelait Chirac l'autre. L'autre, c'est dire le degré de, disons, de mépris dont il entourait le président de la République. Donc il veut lui régler son compte, très simplement. Et ça l'obsède tellement qu'il en oublie tout le reste, c'est-à-dire de développer véritablement un projet et de le défendre et de le bâtir, de le construire. Son projet est confus, sa campagne est mauvaise, il fait une erreur absurde, il a cette phrase malheureuse dans l'avion qu'il ramène de la Réunion, il dit à propos de Chirac qu'il est vieux, usé et fatigué, il n'y avait rien de tel pour réveiller Chirac. Et il ne s'en remet jamais, c'est très étrange. Alors bon, moi j'ai une analyse de tout ça qui peut vous amuser. Jospin, je l'ai écrit dans un bouquin de Sciences Po à l'époque. Moi, je pense que la formation, la culture protestante de Jospin, d'origine familiale, plus sa culture trotskiste-lambertiste d'adolescence et de jeune adulte, enfin de jeune adulte, il a été quand même assez longtemps, au parti de Lambert, rendait très difficile pour un homme comme lui de se projeter dans ce que moi je considère comme la dimension un peu barésienne de la présidence de la République française.
Il faut faire un peu corps avec la France, ou en tout cas la sentir d'une manière...
Et entre son refus du bonapartisme et son refus de cette espèce de relation un peu, appelons-la transcendante, monarchique, entre le président et le peuple, et de cette rencontre nécessaire qui doit se faire pendant la campagne, je pense que... Et bon, j'ai écrit ça, Jospin m'avait volé dans les plumes quelques mois plus tard, en me disant « Ah bon, vous écrivez n'importe quoi. » Enfin bon, bref, il n'avait pas du tout apprécié que je le renvoie à sa double culture d'origine. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans l'ambition présidentielle de candidat en capacité d'être élu, bien sûr, il y a quelque chose d'assez singulier. C'est quand même étrange pour un homme ou une femme de se dire « Demain, j'incarne la France ». C'est assez, quand on y réfléchit, c'est tout à fait... Ça nécessite, je crois, une confiance en soi absolument hors du commun. Ça nécessite une abnégation, parce que ça veut dire 10 ans, 20 ans, 30 ans, exception faite d'Emmanuel Macron aujourd'hui, d'enracinement, d'échec, de réussite, d'échec à nouveau, de cheminement vers cet horizon. Mitterrand a quand même essayé 3 fois avant de réussir, Chirac aussi. Donc il y a cette espèce d'image du candidat qui traverse des épreuves et qui finit par surmonter celle-ci. Il y a ce rapport, appelons-le charnel, avec la France, que voulait De Gaulle, mais que tous les candidats élus ont été, ont construit, même ceux dont on se dit que c'était un jeu, un peu un rôle d'emprunt. Bon, Nicolas Sarkozy n'était pas un homme de la France profonde, c'est un homme de Neuilly, et un pur urbain, le premier président purement urbain de notre galerie de présidents de la République. Et donc, il y a ce rapport très, très intime avec le pays qui donne cette étrange texture.
Qu'il faut réussir à trouver. Merci beaucoup, Gérard Courtois. Cette émission s'achève. Tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Partie de campagne, la saga des élections présidentielles. C'est sorti chez Perrin en 2007. Merci à Boris à la technique. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. À bientôt.